Un journal présenté ce soir par Stanislas Vazak. Bonsoir Stanislas.
Bonsoir Emmanuel, bonsoir à tous. Complicité d'assassinat terroriste, 7 personnes vont être présentées à un juge dans l'enquête sur l'assassinat de Samuel Paty. Parmi elles, il y a 2 collégiens de 14 et 15 ans. Ils auraient joué un rôle déterminant en désignant l'enseignant au tueur islamiste. La France se rendra un hommage national au professeur tout à l'heure à la Sorbonne, lieu hautement symbolique pour saluer la mémoire de celui qui voulait transmettre son savoir à ses élèves. La crise sanitaire, plusieurs nouveaux départements vont basculer en zone d'alerte maximale d'ici la fin de la semaine. La liste sera connue demain. La situation se dégrade. La barre des 2000 patients Covid en réanimation a été franchie hier. Aux États-Unis, Barack Obama s'engage dans la campagne de Joe Biden à 13 jours maintenant du scrutin. L'ancien président américain participera à un meeting en drive-in ce soir à Philadelphie. Le Nigeria en pleine crise politique. La répression brutale des manifestations d'une partie de la jeunesse a fait une 20aine de morts hier à Lagos. Ils sont 7 individus qui vont être présentés à un juge antiterroriste dans l'enquête sur l'assassinat de Samuel Paty, du collégien au père de famille en passant par l'activiste pro-palestinien. C'est tout un écosystème islamiste qui semble aujourd'hui mis en cause dans la mort de l'enseignant. La justice va maintenant déterminer leur degré de responsabilité et de complicité avec le tueur tchétchène Abdulhak Anzorov. Jean-François Ricard, le procureur national antiterroriste, a fait le point cet après-midi sur les derniers développements de l'enquête. Il a expliqué que le père de famille et les 2 collégiens avaient joué un rôle déterminant dans l'assassinat de Samuel Paty. Les précisions d'Anne Fauquemberg.
Les 2 élèves du collège de Conflans-Sainte-Honorine présentés au juge d'instruction ont bien aidé l'assaillant contre rémunération. Ils devaient se partager entre 300 et 350 euros selon le procureur antiterroriste. Ces élèves, âgés de 14 et 15 ans, sont restés en contact prolongé avec l'assaillant l'après-midi du drame. Et d'après le magistrat Jean-François Ricard, ils étaient à minima au courant d'un agissement avec violence.
Le collégien qui a reçu l'argent accompagné d'un de ses camarades a donné alors une description physique de Samuel Paty à Abdulhak Anzorov. Ce dernier leur a déclaré avoir l'intention de filmer le professeur, de l'obliger à demander pardon pour la caricature du prophète, de l'humilier, de le frapper.
Le procureur de la République a ensuite établi un lien de causalité directe entre la mort de l'enseignant et les agissements du père de famille et du militant islamiste Abdelhakim Sefrioui sur les réseaux sociaux. Les 2 hommes ont eu 53 contacts entre le 8 et le 16 octobre. Un père de famille, Brahim C, comme le nomme Jean-François Ricard, qui a aussi eu une grande influence sur le terroriste.
Abdulhak Anzorov s'était en outre directement inspiré des messages diffusés par Brahim C, reprenant dans les notes de son téléphone la localisation du collège et le nom du professeur, avec une présentation totalement identique à celle figurant dans la première parution, y compris dans sa ponctuation ou le recours à un anglicisme.
Les 3 proches du terroriste, également déférés car ils sont soupçonnés de l'avoir aidé, ont tous confirmé avoir remarqué la radicalisation du jeune Tchétchène depuis plusieurs mois.
Anne Fauquemberg, merci. Par ailleurs, selon une source proche du dossier citée par l'AFP, Anzorov a posté sur les réseaux sociaux la photo de sa victime décapitée. Il a ensuite envoyé un message audio de revendication en russe, message où le Tchétchène affirme avoir vengé le prophète. On a vengé le prophète, c'était aussi ce qu'avaient dit les frères Kouachi en janvier 2015 après l'attaque contre Charlie Hebdo. Dans une heure, c'est la République qui rendra un hommage national à Samuel Paty. Hommage à la Sorbonne, temple du savoir que le professeur d'histoire-géographie avait à cœur de transmettre à ses élèves. Antoine Marette, bonsoir.
Bonsoir.
La cérémonie débutera dans le grand amphithéâtre de la Sorbonne.
Et le chef de l'État va y remettre à titre posthume la Légion d'honneur à Samuel Paty en présence de la famille du professeur. Puis le cercueil va entrer dans la cour d'honneur portée par les gardes républicains, accompagné par la chanson One de U2 à la demande de la famille. Un ami de Samuel Paty, également enseignant, lira ensuite la lettre de Jean Jaurès aux instituteurs et institutrices. Le texte avait été publié dans la Dépêche de Toulouse en 1888. « Vous tenez en vos mains l'intelligence et l'âme des enfants. Vous êtes responsable de la patrie. Les enfants qui vous sont confiés sont français. Ils doivent connaître la France, sa géographie et son histoire, son corps et son âme », avait notamment écrit l'homme politique, lui aussi assassiné. Un enseignant lira ensuite un poème de Gauvain, Vincers en hommage à Samuel Paty. Paraît qu'on s'habitue aux horreurs qu'on vit là, mais l'innocent qu'on tue, je ne m'habitue pas, a notamment écrit ce chanteur après la mort du professeur. Autre texte, cette fois lu par un élève, la lettre de Camus à son instituteur. Sans vous, sans cette main affectueuse que vous avez tendue au petit enfant pauvre que j'étais, sans votre enseignement et votre exemple, rien de tout cela ne serait arrivé. Suivra ensuite un discours d'Emmanuel Macron d'une dizaine de minutes, puis la Marseillaise, jouée par l'orchestre de la garde républicaine. Une minute de silence conclura la cérémonie, puis le cercueil de Samuel Paty quittera la cour d'honneur, suivi par sa famille et le chef de l'État, accompagné par la symphonie numéro 3 de Mozart.
Antoine Marette, merci. À travers l'hommage à Samuel Paty, c'est donc tout le travail des enseignants en faveur de la liberté d'expression qu'Emmanuel Macron entend saluer. La communauté enseignante qui est aujourd'hui inquiète pour sa sécurité, Hakim Kasmi.
Ce qu'attend le monde enseignant de la part d'Emmanuel Macron, c'est un véritable soutien qui aille au-delà des mots, avec des propositions fortes et concrètes, dès la rentrée des vacances de la Toussaint. À l'image de Delphine, professeure d'histoire-géographie au lycée Saint-Pierre à Brunoy dans l'Essonne, en région parisienne.
Il n'y a pas de proposition pédagogique forte. Donc le 2 novembre, on va se retrouver devant nos élèves et actuellement, on ne sait pas comment aborder le débat et on devra une fois de plus tout seul réagir face à ce terrible incident. Alors seul ou en équipe, mais absolument pas de manière cohérente au niveau national.
Alors, si le ministère de l'Éducation prévoit pour l'instant une rentrée placée sous le signe de l'hommage à Samuel Paty, avec des échanges prévus entre les élèves et les enseignants, ainsi que l'intervention dans les classes d'acteurs issus de la société civile, comme des avocats, des juges ou des journalistes, pour échanger sur la démocratie ou encore la laïcité, les syndicats demandent de leur côté un meilleur accompagnement, notamment au niveau de la formation. Car les incidents n'interviennent pas que pendant les modules sur la laïcité, ils peuvent aussi parfois se produire en économie ou en sciences et vie de la Terre. Sophie Vianedité, secrétaire générale adjointe du SNES.
Il faut penser la formation sur le long terme, notamment sur des sujets comme la laïcité, mais aussi sur d'autres sujets qui font parfois débat auprès des élèves. Il faut qu'il y ait un effort significatif de formation qui soit fait pour tous les enseignants qui sont actuellement en poste, que dans les prochaines semaines, les prochains mois, on puisse avoir des formations, que ça se fasse aussi dans les prochaines années. C'est indispensable pour pouvoir savoir répondre aux élèves, aux questions qu'ils posent, pouvoir déminer les éventuels conflits, avec après une mise en place concrète dans les prochaines semaines.
Quant au ministre de l'Éducation, Jean-Michel Blanquer, qui travaille actuellement avec les syndicats et les sages du Conseil sur la laïcité, son cabinet nous a indiqué qu'il devrait présenter des propositions juste avant la rentrée.
Hakim Kasmi, merci. La deuxième vague de la Covid-19 prend de l'ampleur en France. La barre des 2000 patients en réanimation a été franchie hier pour environ 5800 places disponibles et le nombre de décès quotidiens dépasse désormais la centaine. Face à la dégradation de la situation sanitaire, le porte-parole du gouvernement, Gabriel Attal, annonce que plusieurs nouveaux départements vont basculer d'ici la fin de la semaine en zone d'alerte maximale. Jean Castex en révélera la liste demain à 17h lors d'une conférence de presse. Sarah Mansoura, cette nouvelle étape dans la stratégie anti-Covid s'accompagnera bien sûr de nouvelles mesures coercitives.
Un certain nombre de points vont se colorer en rouge écarlate sur la carte de France. En cause, le taux d'incidence du coronavirus, c'est-à-dire le nombre de nouveaux cas sur 7 jours pour 100 000 habitants. Il dépasse le seuil d'alerte maximale fixé à 250 dans 22 départements désormais, contre 10 une semaine plus tôt, selon les données communiquées par Santé publique France. Parmi les métropoles qui peuvent être particulièrement visées, on retrouve Saint-Étienne ou Grenoble, mais ce taux d'incidence est également en forte hausse à Clermont-Ferrand, à Tours ou à Nantes. Dans la métropole de Strasbourg, il double même chaque semaine selon l'Agence régionale de santé du Grand Est. Le gouvernement avertit que ces couvre-feux n'auront pas d'effet avant 2 à 3 semaines, mais il prévoit déjà de prolonger l'état d'urgence sanitaire actuellement en vigueur jusqu'à la mi-novembre, jusqu'au 16 février 2021 inclus. L'Assemblée nationale va donc se réunir exceptionnellement ce week-end pour examiner ce projet de loi qui fera ensuite la navette jusqu'au Sénat. C'est ce qui pourra permettre au gouvernement d'appliquer de nouvelles mesures de restriction de circulation, de rassemblement ou d'ouverture des établissements au moins jusqu'au 1er avril 2021.
Sarah Mansoura, merci. Alors pour mesurer l'ampleur de la détérioration de la situation, on va écouter l'avis d'un spécialiste, Xavier Lescure, médecin spécialiste en maladies infectieuses à l'hôpital Bichat et chercheur à l'INSERM. Xavier Lescure estime que le personnel soignant n'aborde pas dans les meilleures conditions cette deuxième vague.
C'est vrai que la particularité particularité de cette deuxième vague, entre guillemets, c'est qu'elle est, de façon assez paradoxale, encore plus difficile à contenir que la première fois. Il y avait un espèce d'élan collectif de la première vague. Et là, on a l'impression qu'on a une sorte d'usure, de fatigue et de sidération collective sur cette deuxième vague, avec finalement le retard pris par tout ce qui est non-Covid qu'on était en train de gérer. Et donc, on a une intrication beaucoup plus forte du Covid et du non-Covid. Et donc, on est beaucoup moins solide sur la capacité à absorber le Covid. Et puis, les équipes sont fatiguées. Tout ça fait que on n'est pas submergé, mais on est plus fragile que la première fois, de façon assez paradoxale. On a appris des leçons, mais on s'est aussi beaucoup fatigué.
Le professeur Xavier Lescure répondait à Thomas Cluzel dans notre journal de 12h30, interview à retrouver sur franceculture.fr. C'est Jean Castex qui pilote désormais la réponse de l'État à l'épidémie. Son prédécesseur à Matignon, Édouard Philippe, doit désormais s'expliquer sur sa gestion de crise. L'ancien Premier ministre qui était cet après-midi devant la commission d'enquête parlementaire de l'Assemblée. Pierre Neveu, bonsoir.
Bonsoir Stanislas.
Devant la commission, Édouard Philippe a répondu calmement et humblement aux questions des députés.
Plusieurs fois au cours de cette audition, Édouard Philippe a dit « je ne sais pas, on ne savait pas à ce moment-là de la gestion de la crise sanitaire ». Il évoque notamment les stocks de masques en début d'année. Il explique aussi qu'il n'y avait pas de consensus scientifique et politique pour décider si les élections municipales pouvaient avoir lieu le dimanche 15 mars. Et sans attendre la question, Édouard Philippe reconnaît des erreurs dans sa communication.
J'ai dit à 13h de TF1 que le port du masque en population générale n'avait aucun sens. Pourquoi est-ce que je l'ai dit ? Parce qu'on me l'avait dit. Parce que des médecins me l'avaient dit. Et je l'ai dit avec assurance, parce que je pensais qu'il fallait diffuser cette information qui résultait de la doctrine. Voilà, aujourd'hui, la doctrine a changé. Donc j'assume ce que j'ai dit à ce moment-là. Mais je vois bien le porte-à-faux sur lequel je suis de ce point de vue-là.
Édouard Philippe qui assume pleinement ses décisions, malgré les freins, malgré les lourdeurs de l'administration.
Matignon, c'est pas, et ça ne doit pas être un endroit où on gère dans la profondeur du temps les dossiers ou les politiques publiques, mais bien un endroit, en réalité, où on arbitre et où on tranche, ou le cas échéant, on impulse, bien entendu, et où on explique. Et ça rend la nature de la remontée d'informations à Matignon assez particulière, probablement assez différente de ce qui se passe dans un ministère.
Et l'ancien Premier ministre d'expliquer qu'en toutes circonstances, il y a eu débat, échange avec le chef de l'État dans la prise de décision.
Le président de la République et son Premier ministre ont été confrontés à cette situation d'être sur, je l'ai dit, un chemin de crête. Confiner trop longtemps, c'est provoquer l'effondrement du pays. Déconfiner trop vite, c'est provoquer, le cas échéant, un redémarrage de l'épidémie. Quand vous êtes sur un chemin de crête, vous avancez et vous essayez de concilier son contradictoire.
Édouard Philippe qui partage ses doutes avec les députés, mais il voudrait que l'on reconnaisse que la stratégie a été la bonne.
Je pense que la façon dont nous avons géré la crise, je ne dis pas nous, le gouvernement, je dis dont le pays a géré la crise, a permis de sauver beaucoup de vies. Pas toutes. Et beaucoup de proches et parfois des amis ont été emportés. Mais je crois qu'on a sauvé beaucoup de vies. Et ce serait bien qu'on se le dise un petit peu.
Voilà, Édouard Philippe cet après-midi devant la commission d'enquête parlementaire. Merci Pierre Neveu. Comment prendre en charge les conséquences psychologiques de la crise sanitaire ? C'est la question qu'Emmanuel Laurentin posera à ses invités dans le temps du débat juste après ce journal. On en vient à présent aux conséquences économiques de cette crise avec une nouvelle illustration dans le secteur de l'habillement. L'enseigne Gap envisage de fermer toutes ses boutiques sur le continent européen d'ici juin 2021. Elle a annoncé hier à ses salariés lors d'une conférence téléphonique. En France, 21 magasins et environ 500 emplois sont menacés. Adrien Toffolet, bonsoir.
Bonsoir.
En délaissant l'Europe, Gap, la célèbre marque très populaire dans les années 90, joue tout simplement sa survie après plus de 15 années de crise.
Oui, l'entreprise a pourtant longtemps été un modèle de réussite dans le secteur du prêt-à-porter. Une concurrence forte à Levi's dès 1969 avec des jeans et des suites. Entrée en bourse 6 ans après sa création, déploiement à l'étranger avec plusieurs marques dans le groupe, près de 12 milliards de dollars de chiffre d'affaires au début des années 2000 et des milliers de magasins dans le monde. L'un des plus prestigieux inauguré à Paris en 1999, situé, je ne vais pas vous le surprendre, à avenue des Champs-Élysées. Au milieu des années 2000, en revanche, court tout le secteur de l'habillement, eh bien ça se complique. Le géant se fait dépasser par ses concurrents H&M et Zara, enchaîne les mauvais choix stratégiques et bien plus que les autres, manque son virage numérique. L'année dernière, le titre a perdu 30% 20% de sa valeur en bourse. Le groupe a aussi lancé un mouvement de fermeture de magasins, 225 en ce début d'année. Mais avec la crise du coronavirus, la situation empire et des mesures plus drastiques sont donc envisagées. Une nouvelle stratégie devrait être détaillée demain aux actionnaires. Le scénario de vente d'environ 120 magasins en France, au Royaume-Uni, en Italie serait sur la table, vous l'avez dit, tout comme celui de reprise des points de vente en franchise. En attendant, en plus des économies, on peut déjà observer du mouvement chez Gap aux États-Unis. Le groupe a réussi à limiter la casse ces derniers mois grâce à la vente en ligne. Pour continuer sur cette lancée, des milliers de saisonniers sont en phase d'embauche en prévision des fêtes. Et puis, une nouvelle campagne publicitaire vient de démarrer pour capitaliser sur le contexte morose de la pandémie. Dream the future, rêve l'avenir, l'avenir du monde et celui de Gap dans l'économie post-Covid également.
Adrien Toffolet, merci. La Cour de cassation a rejeté aujourd'hui le dernier pourvoi formé par Monsanto, ce qui rend définitive sa condamnation dans le dossier l'opposant à l'agriculteur Paul François, qui avait été intoxiqué après avoir inhalé des vapeurs de l'herbicide Monsanto Lasso. Cette décision ouvre la voie à un épilogue dans ce marathon judiciaire entamé en 2007. Paul François, céréalier dans les Charentes, a eu gain de cause à 3 reprises en justice. À 13 jours maintenant de l'élection présidentielle américaine, Barack Obama s'implique directement dans la campagne de Joe Biden. L'ancien président sera à Philadelphie ce soir pour soutenir le candidat démocrate. Joe Biden reste largement en tête dans les sondages nationaux, mais son avance sur Donald Trump se réduit dans les états clés, dont la Pennsylvanie justement. Grégory Phillips, bonsoir.
Bonsoir.
Barack Obama va participer tout à l'heure à un meeting en drive-in en raison bien sûr des contraintes sanitaires.
Oui, l'ancien président sera sur le parking du stade des Eagles de Philadelphie, l'équipe de football, face à des militants démocrates dans leur voiture. Drôle de meeting, évidemment. C'est la première fois que Barack Obama retourne sur le terrain pour soutenir son ancien vice-président. Aujourd'hui, dans son discours, il devrait, nous dit-on, insister sur l'importance du vote par anticipation. Plus de 40 millions d'Américains ont déjà voté et s'adresser en particulier aux Afro-Américains pour qu'ils soient mobilisés. Il le fait dans un état clé. Vous avez raison, la Pennsylvanie que Trump avait remportée de justesse en 2016 et d'autres déplacements sont prévus avant le 3 novembre dans d'autres swing states. Alors c'est important qu'Obama mouille la chemise pour Biden. Il l'avait déjà fait lors de levées de fonds à travers aussi des messages vidéo, notamment lors de la convention démocrate de cet été. C'est important, mais c'est aussi à double tranchant. Biden ne peut pas et ne doit pas se présenter uniquement comme l'héritier des années Obama. Et c'est sans doute pour ça que jusqu'ici, la stratégie était de ne pas trop mettre en avant l'ancien président. Car on sait aussi qu'il peut être un repoussoir vis-à-vis de l'électorat trumpiste et un motif de mobilisation.
Et Grégory Phillips, correspondant aux États-Unis, merci. Le Nigeria se réveille sous le choc au lendemain d'un mardi noir, un mardi sanglant, titre les journaux, journée marquée par une éruption de violence à travers tout le pays et particulièrement dans la mégapole de Lagos où les forces de sécurité ont brutalement dispersé les jeunes qui manifestaient contre les violences policières. Amnesty International parle de plusieurs morts, sans doute une vingaine. La correspondance à Abuja de Lisa Fabian de RFI.
Les habitants de Lagos sont calfeutrés chez eux alors que le couvre-feu en vigueur depuis hier soir est étendu pour 72 heures dans la mégalopole de 20 millions d'habitants. Des tirs sporadiques résonnent toujours dans la ville où des bandes de casseurs se livrent à des actes de pillage. Un péage et des banques ont notamment été vandalisés dans le quartier des affaires, non loin du lieu de rassemblement où les militaires sont intervenus hier soir. Mais les tensions ne se limitent pas à la capitale économique nigériane. Désormais, ce sont 5 États sur les 36 que compte le pays qui ont décrété un couvre-feu, mais cela n'a pas empêché certains manifestants de sortir de nouveau aujourd'hui, notamment dans l'état d'Edo, où près de 2000 détenus ont été libérés lundi par des bandes de voyous, selon les autorités. Alors que le secrétaire général des Nations Unies condamne les violences de la nuit dernière au Nigeria, le président du pays, Muhammadu Buhari, ne s'est toujours pas exprimé. Quant aux responsables de l'armée, ils nient en bloc leur implication dans la fusillade, malgré de nombreuses vidéos montrant les militaires en action mardi soir à Lagos.
Lisa Fabian, correspondante au Nigeria. En Allemagne, le parquet antiterroriste ouvre une enquête après le meurtre d'un homme le 4 octobre dernier à Dresde. La victime a succombé à une attaque au couteau qui a fait également un blessé. Un suspect a été arrêté, un Syrien âgé de 20 ans. Et puis cette information importante en provenance du Vatican, le pape François a défendu mercredi le droit des couples homosexuels, enfants de Dieu, de vivre au sein d'une union civile qui les protège légalement. Ce qu'il faut, c'est une loi d'union civile, a plaidé le pape argentin dans un documentaire intitulé Francesco. On termine ce journal avec la météo et tout d'abord cette tempête Barbara qui a fait un mort aujourd'hui, un homme d'une soixantaine d'années écrasé par un arbre en Saône-et-Loire. 61 000 foyers restent privés d'électricité, notamment dans le sud-ouest. Demain, la météo restera très agitée sur la moitié sud avec des pluies orageuses. Le vent soufflera moins fort qu'aujourd'hui. Au nord, le ciel se partagera entre nuages et éclaircies. Les températures seront douces pour la saison, de 9 à 17 degrés pour les minimales du nord au sud, de 16 à 26 degrés pour les maximales. C'est la fin de ce journal préparé ce soir avec Jean-François Braun.